Je suis Thierry Montmerle et je suis physicien au commissariat à l'énergie atomique au centre d'études de Saclay, près de Paris.
Physicien, astrophysicien.
Voilà, astrophysicien, disons qu'au CEA, on ne fait pas la différence entre les deux. On fait de la physique et l'astrophysique est un cas particulier de la physique, appliquée aux astres, comme son nom l'indique.
C'est une passion de toujours. Vous avez toujours été baigné là-dedans?
Oui, on peut dire que je suis tombé tout petit, hein, dedans, un petit peu comme dans la potion magique. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir devenir ce dont je rêvais quand j'étais petit. Et puis, donc je travaille dans un laboratoire à côté de Paris qui, disons, fait beaucoup d'astrophysique et d'astronomie spatiale, c'est-à-dire qui embarque des expériences à bord de différents satellites. La nécessité de faire de l'astronomie dans l'espace, c'est que, disons, au départ, un certain nombre de rayonnements émis par les astres n'arrivent pas à traverser l'atmosphère, par exemple les rayons X ou les rayons gamma, et que donc il faut aller au-dessus pour arriver à les observer. Alors maintenant, on connaît évidemment d'autres types de satellites, comme le télescope spatial Hubble, etc. Alors là, qui est au-dessus de l'atmosphère pour d'autres raisons, c'est que l'atmosphère, d'habitude, brouille un petit peu les images qu'on peut obtenir du sol, et que dans l'espace, on a des images, disons, parfaites, ou du moins aussi parfaite que les miroirs permettent de l'obtenir, ce qui a posé quelques petits problèmes à Hubble du reste dans les premiers temps.
On reviendra sur les étoiles dans quelques instants. Il y a d'autres étoiles qui sont dans le milieu de l'astrophysique et des gens très médiatiques. Quand je dis étoiles, c'est pas forcément le terme. Notamment vos anciens directeurs, Avery Chatzman et surtout Hubert Reeves.
Oui, tout à fait, oui.
Quand on étudie, on dit souvent que tôt ou tard, il faut un peu tuer le père. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours en accord avec ce que peuvent expliquer Hubert Reeves et Avery Chatzman?
Oui, d'accord. Du point de vue de la physique, il n'y a aucun problème, non? Peut-être que de ce point de vue-là, j'ai tué mes deux pères en faisant autre chose que ce qu'ils faisaient. Encore que d'une certaine façon, c'est la formation qu'ils m'ont donnée m'ont permis de faire ce que je fais actuellement. Avery Chatzman est un théoricien qui s'intéresse beaucoup, par exemple, à la structure interne des étoiles, entre autres choses, ce qui est un sport que moi je ne pratique pas, qui est absolument passionnant, mais que je ne fais pas moi-même. Hubert Reeves a fait beaucoup de choses dans sa vie, de l'astrophysique nucléaire en particulier, et de la cosmologie plus récemment. Et moi, d'une certaine façon, je m'intéresse aux étoiles un petit peu entre les deux, c'est-à-dire la façon dont les étoiles se forment, quelles sont leurs activités, quel rôle elles jouent dans la galaxie. Donc d'une certaine façon, c'est un petit peu intermédiaire. En tous les cas, ce que je fais, ni l'un ni l'autre ne le font.
C'est vrai que vous intéressez-vous plus particulièrement, et ça sera votre intervention d'ailleurs de vendredi soir, aux embryons d'étoiles et aux bébés soleils.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire à la façon dont, disons, notre Soleil et accessoirement le système solaire d'une part, et les autres étoiles d'autre part, se forment, puisque maintenant on sait depuis pas mal de temps que les étoiles ne sont pas éternelles, elles naissent, elles vivent et elles meurent, je dirais pas comme les humains, mais ça serait un petit peu anthropomorphique, mais disons qu'elles ont une évolution, au même titre que l'univers du reste, certaines sur des échelles de temps très courtes, quelques millions d'années seulement, c'est-à-dire que certaines qu'on voit maintenant sont nées il y a 1 ou 2 millions d'années, c'est-à-dire que l'homme arrivait tout juste à se tenir debout, et d'autres, par contre, comme le Soleil, par exemple, sont beaucoup plus anciennes, elles ont une vie qui se chiffre en milliards d'années. Donc on évolue sur des échelles de temps qui sont à la fois courtes sur la naissance et la formation des étoiles, quelques centaines de milliers d'années ou moins, ou le million d'années, et puis extrêmement longues pour ce qui est de l'évolution des étoiles comme le Soleil, qui se chiffre en milliards d'années.
C'est en même temps ce qui est difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, c'est de temps en temps de se dire on voit une étoile et en fait elle est peut-être déjà morte.
Bon, disons que c'est pas tout à fait exact. C'est peut-être vrai pour les étoiles dans des galaxies lointaines, pour lesquelles le temps de parcours de la lumière peut effectivement se chiffrer en centaines ou en centaines de milliers d'années, voire millions d'années.
Ça, c'est quand on a une vue perçante.
Disons, quand on a des télescopes, en tout cas, par exemple, il y a plus de 10 ans maintenant, en 1987, vous avez eu une explosion d'étoiles qu'on appelle une supernova, tout à fait spectaculaire, dans une galaxie proche de la nôtre qui s'appelle le Grand Nuage de Magellan, qu'on peut voir de l'hémisphère sud, malheureusement pas de Nantes. Quand l'étoile a explosé, compte tenu de la distance qui est de 55 millions d'années-lumière, ça voulait dire que quand on a vu l'événement, il s'était en réalité produit il y a 55 millions d'années. Disons, Pour ce qui m'intéresse plus directement en ce moment, aujourd'hui, je regarde des étoiles qui naissent. Elles ne sont pas encore mortes, mais disons, quand on les voit naître ou quand on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est des échelles de temps qui se chiffrent plutôt en milliers d'années de transport de la lumière. Donc, quand on les voit avoir des hoquets, des sursauts en rayons X ou des choses comme ça, effectivement, ce sont des événements qui sont déjà passés au moment où on les observe, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Disons, ça se chiffre en quelques milliers d'années au maximum.
Pour comparer avec les études archéologiques comme la préhistoire, où on sait un certain nombre de choses sur les hommes qui nous ont précédés, mais quand on fait l'addition, finalement, on ne connaît pas grand-chose. Est-ce que du côté du Soleil, de notre Soleil, par exemple, est-ce qu'on sait beaucoup de choses ou vous avez le sentiment qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre?
Les deux, en général. On sait beaucoup de choses. Bon, le Soleil, disons, est notre étoile évidemment la plus proche, donc c'est la seule étoile, ou pratiquement la seule qu'on peut, comme on dit en termes techniques, résoudre, c'est-à-dire dont on peut voir la surface, à la différence de l'immense majorité des étoiles pour lesquelles on ne voit qu'un point. Et donc, on peut étudier sa surface, on peut même étudier sa structure interne par des méthodes qui ont beaucoup de points communs avec la sismologie terrestre. Du reste, on parle d'héliosismologie, qui permet de sonder l'intérieur du Soleil. Et maintenant, disons que c'est une étoile qu'on connaît à un cent millième près dans certains paramètres, ce qui est vraiment très très peu fréquent en astronomie, où souvent on a les grandeurs, on les mesure à un facteur de près, c'est-à-dire la valeur mesurée, multipliée ou divisée par deux, tellement les mesures sont difficiles. Cela étant, le Soleil lui-même pose encore des tas de problèmes à ce niveau de précision quant aux processus physiques qui ont lieu à l'intérieur notamment, ou même qui ont lieu à l'extérieur. Alors ça, c'est plus de mon domaine de recherche, y compris pour les étoiles jeunes. C'est-à-dire que, par exemple, une des grandes énigmes du Soleil, c'est qu'on ignore toujours avec précision le mécanisme de production de ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire ces particules qui s'échappent du Soleil et dont on voit une certaine fraction sous forme de la couronne solaire lors des éclipses, par exemple. Et bien ça, la façon dont le phénomène se passe, pourquoi il se passe, ça reste encore un grand mystère, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Bon, on soupçonne que les champs magnétiques ont un rôle très important et qu'ils ont un rôle très important non seulement pour le Soleil, mais pour toutes les étoiles depuis leur naissance. Maintenant, tout ce qui touche aux champs magnétiques en physique sont des domaines très complexes, très, très ardus, et bon, il y a encore là beaucoup, beaucoup de questions.
Votre activité aujourd'hui est encore énormément basée sur l'observation du ciel?
Disons que c'est encore basé essentiellement sur l'observation. Je dirais presque que d'une certaine façon, l'observation est très en avance sur beaucoup de théories, parce qu'avec le développement de nouveaux instruments, de nouveaux télescopes, de nouveaux satellites, on arrive à engranger une quantité phénoménale de données qui, en elle-même, du reste, commence à poser problème. On a même quelquefois du mal soit à les transmettre au sol, tellement le rythme est élevé à partir de satellites, soit simplement à les stocker ou à les traiter dans des télescopes au sol. Alors ça montre un petit peu le troisième aspect. Il y a l'observation, la théorie que je viens de mentionner, et puis il y a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire la figuration mathématique qu'on se fait des phénomènes qui se passent, et donc d'essayer de reconstituer un peu des étoiles, voire même des galaxies, voire même, pourquoi pas, l'univers entier, dans un ordinateur. Ça, c'est un troisième volet, disons, plus récent que les autres, mais évidemment qui ne peut être validé et qui ne peut être crédible que lorsqu'il est confronté à des observations.
Vous n'êtes pas à la recherche permanente de nouvelles étoiles qui pourraient apparaître dans le ciel?
Si, bien sûr, on en trouve tout le temps. On en trouve tout le temps. Plus on va loin, plus on voit faible, on trouve des nouvelles étoiles tous les jours. Et les étoiles qui nous intéressent beaucoup, par exemple, en ce moment, c'est des toutes petites étoiles extrêmement faibles qu'on appelle d'un joli nom. On les appelle les naines brunes. Le Soleil est une naine jaune et les naines brunes sont des étoiles qui sont presque comme des planètes. C'est-à-dire, c'est des étoiles qui ne s'allumeront jamais comme le Soleil pour transformer leur hydrogène en hélium, mais qui sont, disons, des super planètes, et on se pose beaucoup de questions sur leur formation, leur évolution. Disons, je dirais que ce sont des étoiles écologiques, au sens où elles n'ont aucune source d'énergie nucléaire. La seule source d'énergie qu'elles ont pour rayonner, c'est la gravitation, c'est-à-dire c'est ce qui maintient tous les corps ensemble, vous et moi sur Terre, et puis la Terre autour du Soleil, le Soleil dans la galaxie, etc., jusqu'à tout l'univers. Donc ce sont des étoiles qui évoluent très très lentement, qui sont très froides, très rouges, très petites, et qui sont un petit peu à la frontière de ce qu'on sait sur la physique stellaire, et qui donc sont tout à fait d'actualité en ce moment.
Très bien, vous auriez été parfait en direct.
Bah écoute. habitez, je ne sais pas, mais comme ça, vous pourrez charcuter comme vous voulez.
Ah ben, il n'y a pas beaucoup de montage à faire. Très bien, ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bien, bonne intervention vendredi prochain.
D'accord, ben, écoutez, vous êtes gentil. Le cas échéant, si vous pouviez mettre de côté une petite cassette, parce que là, je crains que d'ici de Paris, on ne puisse pas vous entendre.
D'accord.
Donc, le cas échéant, une petite cassette avec deux ou trois petits trucs qu'il y a avant et après, ça serait sympathique.
D'accord, ben, je vais essayer de transmettre ça par les gens de la SAN.
D'accord, bah écoutez, vous êtes gentil comme tout.
Pas de problème.
Merci.
Bonne fin de semaine.
Au revoir.
Au revoir.